VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Génocide de 1994 au Rwanda. Les juges antiterroristes français ont clôturé leur enquête sur l'attentat de 1994 contre le président rwandais Juvénal Habyarimana, qui empoisonne depuis 19 ans les relations entre Paris et Kigali. C'est ce que rapporte l'AFP ce jeudi en citant des sources judiciaires proches du dossier. Le parquet de Paris doit maintenant décider s'il faut réclamer au juge la tenue d'un procès ou l'abandon des poursuites contre les 7 personnes inculpées qui sont membres du clan de l'actuel président rwandais Paul Kagame. L'attentat qui a coûté la vie à Juvénal Habyarimana est considéré comme le déclencheur du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Au Rwanda, une commission d'enquête a imputé la responsabilité de l'attentat aux extrémistes Hutus qui voulaient se débarrasser d'un président jugé trop modéré. Mais en France, l'instruction du dossier a privilégié l'hypothèse opposée d'un attentat commis par l'ex-rébellion Tutsi du Front patriotique rwandais, le FPR, dirigé par Paul Kagame. Tournée de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, le leader qatari a été reçu hier à Dakar par le président sénégalais Macky Sall lors de la première étape de son périple. Confronté depuis 6 mois à une crise avec l'Arabie Saoudite et à un embargo, Doha cherche à diversifier ses partenariats. Claire Morin-Gibault.
Prévu sur 3 jours, cette tournée doit le mener jeudi au Mali puis en Guinée. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont également au programme, mais Doha n'a fourni aucun calendrier. Depuis plusieurs années, le Qatar a consolidé ses liens économiques et diplomatiques avec le Sénégal. L'émir était d'ailleurs intervenu pour la remise en liberté de Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais. D'après le ministère qatari des Affaires étrangères, les pays africains choisis par le Qatar ont un fort potentiel économique malgré des défis sécuritaires. Des signatures d'accords dans les secteurs des mines et de l'énergie seront aussi au programme. Bien que riche émir gazier, le Qatar est confronté depuis plus de 6 mois à une crise diplomatique qui l'oppose surtout à son voisin saoudien qui lui a imposé des sanctions drastiques.
En Guinée, les candidats aux élections communales ont 6 jours de plus pour déposer leur dossier et ce suite à la décision de la Commission électorale nationale indépendante mercredi de proroger le délai initial de réception des candidatures aux élections locales du 4 février prochain. Les explications de notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Les candidats indépendants et les partis politiques ont jusqu'au 26 décembre pour déposer leur dossier de candidature. 6 jours de plus demandé par les acteurs politiques et accepté par la Commission électorale nationale indépendante. Mais si le délai est repoussé, la date du 4, jour du scrutin, n'est pas impactée, a précisé le porte-parole de la CENI. Chaque candidat doit constituer un dossier qu'il doit déposer dans les commissions électorales communales indépendantes. Les candidats doivent fournir un acte de naissance, un casier judiciaire, un reçu bancaire, un certificat de résidence, mais obtenir ces documents n'est pas sans difficulté. Les acteurs politiques ont donc besoin du temps. Plus de 100 candidatures, dont 6 indépendantes, sont enregistrées et validées selon la Commission électorale nationale indépendante. Attendu depuis 7 ans, le scrutin qui aura lieu le 4 février 2018 est très attendu en Guinée, d'autant qu'il est l'une des principales revendications de l'opposition. Conakry, Zakaria Kamara, pour VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, après une semaine de grève, les professeurs de l'université Félix Oufret Boigny d'Abidjan ont repris le travail mercredi. Ils ont obtenu satisfaction sur le paiement d'heures supplémentaires. Solange Diamoulissa.
Kwasi Zamina Johnson, secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, a expliqué que les heures supplémentaires effectuées durant l'année 2015-2016 ont été intégralement réglées, c'est-à-dire quelques 8 173 millions de francs CFA. La grève a été suspendue en assemblée générale et aujourd'hui tous les cours devront être assurés normalement. Les professeurs s'étaient mis en grève le 12 décembre, paralysant totalement l'université Félix Houphouët-Boigny. Les enseignants du supérieur effectuent beaucoup d'heures supplémentaires car l'État n'embauche pas assez de professeurs. Le syndicat regrette que le problème de leur paiement s'épose chaque année depuis 2006. Le gouvernement et les syndicats ont signé en août une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire à environ 130 000 fonctionnaires.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes en Afrique. Le président Emmanuel Macron va fêter Noël avec quelques heures d'avance en compagnie des forces françaises déployées au Niger dans le cadre de la campagne contre les groupes djihadistes au Sahel. Une semaine après un sommet sur le Sahel à Paris, le chef de l'État français visitera vendredi soir et samedi la base de l'opération Barkhane à l'aéroport de Niamey où sont stationnés quelques 500 soldats français. Et Emmanuel Macron sera accueilli vendredi après-midi par son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, qui le recevra le lendemain à la présidence à Niamey. En Afrique du Sud, le nouveau président du Congrès national africain, l'ANC au pouvoir, Cyril Ramaphosa, a clôturé la conférence de son parti en promettant d'éradiquer la corruption et d'accélérer la transformation radicale de l'économie sud-africaine. « Nous devons mettre un terme à la corruption et nous devons le faire immédiatement », a déclaré M. Ramaphosa lors d'un discours prononcé dans la nuit de mercredi à jeudi devant quelques 5000 délégués de l'ANC réunis à Johannesburg. Cyril Ramaphosa fait désormais figure de favori pour succéder au président Jacob Zuma à la tête du pays à l'issue des élections de 2019. Actualité aux États-Unis maintenant, le Congrès américain a adopté mercredi la plus importante réforme fiscale dans le pays depuis 31 ans. Une législation de baisse d'impôts que le président Donald Trump a qualifié d'historique. Pour une analyse, Eddie Sango a joint le professeur d'économie et de fiscalité au Southeast College dans l'État du Nebraska, Eric Haïté.
C'est la première fois dans 30 ans que quelque chose de la sorte a été fait. Mais il faut aussi souligner certaines choses. Pour la première fois, donc, les entreprises vont payer un peu moins d'impôts. Ils pensent que cela va quand même avoir une conséquence sur les salaires qui sont payés aux employés d'une façon indirecte. Mais je ne sais pas si on peut affirmer ça avec beaucoup de certitude. Ça dépend des décisions qui sont prises au niveau de chaque entreprise. Ils vont payer moins d'impôts, mais cela ne suppose pas qu'ils vont nécessairement augmenter aussi les salaires de leurs employés. Ça reste à voir. Dans le cas régional, il faut voir que c'était beaucoup plus axé sur les entreprises et moins sur des super riches comme le cas de Trump, par exemple. Je crois que ça, c'est un peu la différence nette qu'il faut remarquer tout de suite. Certaines personnes, en comparant les deux, pensent que cela va donner un boom à l'économie, comme dans le cas de la période de Reagan. Mais à voir dans les détails, il y a plusieurs différences.
Les démocrates estiment que cette réforme va plutôt bénéficier aux millionnaires qu'à la classe moyenne.
C'est un peu difficile de dire que ça va profiter directement à la masse. C'est bien vrai que les entreprises vont payer moins en impôts, mais cela ne va pas nécessairement dire qu'ils vont payer plus à la masse, étant donné que la plupart de ces républicains sont soit des propriétaires d'entreprises ou bien des gens qui ont assez investi dans de grandes entreprises. Oui, on peut dire sans chance de se tromper que cela va profiter donc à ces gens-là.
Certains arguent que cette réforme va plutôt provoquer un déficit au niveau de la caisse de l'État, avec pour conséquence une inflation plus tard.
On ne peut pas se tromper en disant que dans un système, tout le monde peut payer moins et que le système va toujours continuer à fonctionner. Il faut que l'argent vienne de quelque part. Alors, si on coupe un peu les impôts que les entreprises paient actuellement, et qu'on veut aussi donner plus de subventions aux familles pauvres, on se demande d'où est-ce que l'argent viendrait. La seule façon peut-être de faire fonctionner un système comme ça, c'est de couper d'autres secteurs d'aide qui sont accordés donc aux familles pauvres. Ça, c'est la première possibilité. Ou bien l'État serait dans une situation difficile, ce qui fait qu'avec le temps, il y aurait une flambée de prix. C'est possible. Ça, c'est une deuxième possibilité.
Certains pensent que ça aura plutôt un bénéfice pour Trump pour l'élection prochaine.
Si les gens pensent, en un premier temps, qu'ils vont avoir un peu d'argent sur leur compte, alors ils vont voter pour un candidat qui fait cette promesse-là. Il suffit que ce candidat soit capable de les convaincre.
Eric Haïté, professeur d'économie et de fiscalité au Southeast College dans l'État du Nebraska, ici aux États-Unis. Et pour terminer, la sécurité alimentaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient se détériore rapidement à cause des conflits. C'est ce qu'a estimé la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, dans un rapport publié ce jeudi au Caire. Selon le document, l'écart se creuse entre les pays en conflit tels que la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Soudan et la Libye, et les États qui ne sont pas en guerre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.